Bonjour à tous, bienvenue à l'Épice Matin. On aimerait prendre un temps de prière chantée au travers de ce chant qui dit « De tout mon être ». C'est un chant qui dit « Seigneur, ouvre les yeux de nos cœurs afin qu'on soit l'Église que tu veux qu'on soit dans nos actions, mais aussi dans notre état d'esprit. » On invite le Seigneur à briser notre orgueil au travers de ce chant et j'aimerais que ça puisse être notre prière ce matin à tous en tant qu'Église. Je veux te louer dans ce lieu, de tout mon être, de tout ce que je suis, avec mes victoires, avec mes combats, avec mes luttes, avec mes batailles, et je veux de tout mon être te louer, Père, parce que j'ai conscience que j'en ai besoin. De tout mon être, Seigneur, je veux t'adorer.
Chanter Pour chaque âme assoiffée de toi. Seigneur, nous voulons encore nous confier en ta parole, que ton Saint-Esprit nous rappelle que tu es notre rocher sûr, tu es notre fondation, Seigneur. Aide-nous à y croire fermement et à le proclamer avec assurance. Viens encore nous renouveler ce matin. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus.
Jamais, non, jamais. n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui nous donne de la force et qui nous trace une voie droite. Alors, déclarons que notre vie est bâtie sur Jésus-Christ. Amen.
C'est qu'il a décidé d'utiliser l'Église pour s'encourager les uns les autres afin de tenir ferme aussi en lui. Et pour ça, on a un événement qui arrive qui s'appelle Iron Man. C'est un événement pour les hommes qui aura lieu le samedi 26 octobre. Les informations vont bientôt être projetées. C'est un temps fort qu'on veut pour équiper les hommes, pour nous encourager alors qu'on fait tous face à des défis, qu'ils soient professionnels, familiales, dans le couple, face à notre sexualité. Il y a toutes ces choses qui peuvent être là comme des temps de pression et on veut pouvoir vivre un temps fort. On va être encouragé. On aura pour ça le pasteur Samuel Balvert de l'église Lille Métropole qui sera avec nous pour un temps de plénière le matin et l'après-midi, un temps d'échange avec et Samuel Balverde et des frères engagés dans notre église qui vont aussi partager leurs clés pour faire face, pour tenir ferme face à la pression. Et pour se défouler, il y aura aussi toutes sortes d'activités pour pouvoir canaliser notre énergie en tant que gars. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, messieurs, c'est le moment de le faire. Il y a le site internet, il y a des flyers encore dans le hall d'accueil. Et puis, je vous en donnerai encore sur mon stand à l'issue. Voilà, on veut saluer aussi peut-être celles et ceux qui sont là pour une première fois. Bienvenue à l'EPI. On souhaite que vous puissiez être encouragés. Ce matin, c'est une célébration un peu raccourcie. Mathieu va nous l'expliquer pourquoi, parce que ça va être intense. On présente la vie de notre église, mais on veut maintenant laisser toute la place à Mathieu. Puis je vais prier pour toi. Est-ce que l'église, on peut se lever ensemble pour prier? On veut être encore à l'écoute. On l'a dit, Seigneur, ouvre nos yeux. Puis on veut être encore ouvert à ce que Dieu veut nous dire dans cette série qu'on veut vivre. C'est quoi notre église locale et comment on veut faire la différence dans notre monde? Alors, Père éternel, je te prie pour Matt ce matin. Merci pour ce que tu as déposé sur son cœur. Je te prie pour une parole prophétique qui vient nous interpeller en tant qu'église locale, Seigneur, pour faire le pas de plus en partenariat avec ton Saint-Esprit, parce que je crois que tu n'en as pas fini avec l'église de l'Épi. Et alors que les ténèbres s'épaississent, Seigneur, c'est là où doit briller la lumière. Et tu veux nous inviter en tant qu'église locale à briller ici sur notre cité. Alors je te prie de remplir Matt, Seigneur, de le fortifier. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça disent un grand amen.
Amen. Qui est heureux d'avoir bâti sa vie sur Jésus ? Bah, faites-vous connaître en applaudissant le roi, en applaudissant Jésus. À chaque fois que j'ai bâti ma vie sur Jésus, waouh ! Ça fait 20 ans que j'ai bâti ma vie sur Jésus. Et vous savez quoi ? J'ai été bien imparfait, mais Jésus, il a toujours été parfait. Il ne faillira jamais. Cette célébration, elle a commencé lorsque vous avez été accueillis sur le parking par des personnes qui sont là à chaque dimanche. Puis ça a continué, vous avez été accueillis dans un hall. Et des gens ont été là, il y a un café, il y a des choses qui sont là. Et la célébration a continué en arrivant dans ce lieu et en célébrant Jésus par des chants. Et puis cette célébration continue avec une annonce importante pour les hommes de notre communauté. Puis ça continue avec un message que je vais prêcher maintenant. Et la célébration, elle va continuer en découvrant l'Église de l'intérieur. Des hommes, des femmes passionnés de Jésus, passionnés de l'amour pour le prochain. Et la célébration continuera avec une agape apéro, comme on aime le vivre en Alsace. Parce que ça fait partie aussi de la célébration. Très heureux d'être avec vous ce matin pour continuer notre série sur la culture. Et je vais parler ce matin avec vous de la culture de l'engagement, avec cette thématique vers une église toujours plus dynamique, une église vivante, une église en mouvement toujours. Notre série sur la culture de l'église nous emmène à ce moment clé où tout ce que nous croyons sur Dieu, tout ce qu'on croit sur la Bible, sur le message biblique, doit s'incarner. Sinon, ça reste une croyance, ça reste intellectuel. Mais à un moment donné, ce qu'on croit doit s'incarner dans la vraie vie, doit s'incarner dans notre vie de tous les jours. Jérôme a fait une première partie en parlant de la connaissance de notre culture ambiante. Je vais continuer en parlant de comment on répond aussi à cette culture-là, comment on vient rejoindre les gens dans leurs défis, dans leurs combats, comment on peut s'engager en tant qu'Église pour aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Parce que c'est au tour de l'église ce matin de prêcher avec moi. Peut-être vous n'avez jamais vu une église prêcher, mais ce matin, à cette célébration, c'est l'église qui va prêcher. Et elle va faire une prédication qui n'est pas comme les autres. Vous allez découvrir l'église de l'intérieur, découvrir l'église vivante, l'église organique, l'église en mouvement. Ça va être un pur moment de théologie pratique. Ça va être un pur moment de théologie illustrée, de théologie appliquée. On va être dans l'application ce matin. L'église ouvre les portes de son cœur à vous qui êtes là, à vous qui êtes en ligne au travers de ce message aussi. Et on va découvrir ensemble comment les chrétiens font vivre le message de l'évangile à chaque semaine, du lundi au dimanche. J'entends souvent cette expression, il faut sortir de nos quatre murs. Mais on vit des choses fortes aussi dans les quatre murs. Et parce qu'on vit des choses fortes ensemble, on l'expatrie, on l'exporte aussi dans notre vie de tous les jours. L'un ne s'oppose pas à l'autre. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que votre semaine, elle ne se passe pas dans l'intégralité ici. Elle se passe dans la vraie vie, n'est-ce pas ? Et ce matin, je voudrais ensemble avec vous parler de cette église toujours plus vivante, toujours plus dynamique. Parce que ce sont bien les disciples de Jésus, ce sont bien les chrétiens qui font de l'Église une Église vivante, une Église dynamique. Alors ma première question, c'est qui sont ces chrétiens qui forment ensemble l'Église de l'Épi ? Mais qui sont ces chrétiens, ces disciples de Jésus ? Bien, premièrement, les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Vous voulez savoir qui sont les chrétiens qui composent l'Épi ? Ce sont des pécheurs sauvés par grâce. On ne naît pas chrétien simplement parce qu'on vient d'une famille chrétienne ou parce qu'on vient d'un pays à forte connotation, à forte tradition chrétienne. On devient chrétien en prenant conscience que notre nature humaine, spirituelle, est incomplète en Dieu. Il y a une prise de conscience spirituelle qui fait qu'à un moment donné, on réalise qu'on est pécheur. Ça veut dire quoi ? On réalise qu'on est séparé de Dieu. On réalise qu'on ne mérite rien. On réalise qu'on est quelque part incomplet, malgré toutes nos idéologies, nos propres forces, nos pratiques, nos religions, nos philosophie, on est incapable de parfaitement entrer en relation avec Dieu. On est incomplet. Il y a quelque chose en nous, il y a un vide, il y a un creux, il y a quelque chose qui sonne comme une dissonance. Et on se rend compte à un moment donné, parce que Dieu vient toucher notre vie, on se rend compte qu'on est incomplet et qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui peut compléter notre vie. Devenir chrétien, c'est reconnaître que sans l'amour de Dieu, sans cet amour qui a été manifesté, incarné concrètement à la croix par la mort de Jésus, sans cet amour, nous restons incomplets. On pourra pratiquer ce qu'on pratique, on pourra croire ce qu'on croit, on pourra philosopher sur ce qu'on philosophe. Mais le chrétien sait qu'à un moment donné, il y a un avant et un après. Quand j'ai rencontré Christ, ma vie n'a plus jamais été la même. Ma manière de me voir et de voir l'autre n'a plus jamais été la même. Et être chrétien, ça démarre avec un abandon spirituel à Jésus. C'est confesser de son cœur et confesser par ses actes que Jésus est maintenant notre Sauveur et notre Seigneur. C'est à ce prix-là qu'on devient chrétien. Quand on ose l'humilité de dire « je suis incomplet, je suis loin de Dieu, je suis pécheur ». Et alors là, il y a une repentance, c'est-à-dire on fait un demi-tour à ce qu'on pratiquait, à ce qu'on croyait, on fait un demi-tour. Et maintenant, nous demandons avec humilité à Dieu de nous sauver. Les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce. Ce sont des pécheurs sauvés par grâce, et mon deuxième point est celui-ci. Ils sont sauvés par grâce et ils forment une communauté. Quand un chrétien naît spirituellement, il est naturellement conduit par un éveil intérieur et l'appel de Dieu à rejoindre une communauté de croyants. C'est ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Il va renaître spirituellement et la Bible nous dit qu'il cherche à se joindre à des disciples. Cet éveil spirituel le conduit naturellement à essayer de connecter avec d'autres chrétiens, à rejoindre une communauté de croyants. Malheureusement, l'église qu'il a rencontrée l'a un peu rejetée. Enfin, l'a rejetée. Et il a fallu des chrétiens qui ont compris que cet homme avait changé et l'ont invité à rejoindre la communauté des croyants, à rejoindre l'Église. Et c'est au sein de cette communauté que le disciple de Jésus va vivre et va renforcer sa foi, notamment au travers du baptême. L'Église va attester de dire « cet homme a changé de vie, cette femme a changé de vie, ce jeune a changé de vie » et il passe de la mort à la vie, ça se concrétise, ça se symbolise par le baptême, mais pas seulement. Ça se concrétise aussi par un engagement actif dans cette vie collective ensemble. L'Église, l'Ecclésia, qui veut dire « communauté », donc l'Église, c'est la communauté des disciples, c'est un ensemble de pierres vivantes qui forment un organisme spirituel. Je lis avec vous ce texte dans Éphésiens chapitre 2, verset 19, qui résume cette pensée. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, vous tous, des saints et membres de la famille de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ. Lui-même étant la pierre angulaire et en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ce corps, il est dynamique et il est en constante évolution. Ce corps, il est si riche et complexe qu'il ne peut être décrit par un seul mot. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, vous allez avoir plein de synonymes pour parler de l'Église. On parle du corps, on parle d'un arbre, on parle d'une maison, on parle d'un temple, on parle d'une famille, et il y en a encore tellement. Et pour vivre pleinement cette dimension ecclésiale, communautaire, il nous faut apprendre, et c'est pour ça que nous avons fait cette série sur la culture, il nous faut apprendre à incarner la grâce de Dieu dans nos relations et envers les autres. Il nous faut apprendre à gérer nos conflits avec sagesse, parce que vivre ensemble, ça emmène des conflits. Il faut en parler. L'Église, ce n'est pas le petit monde des bisounours. Nous sommes différents. Moi, j'aime le rougail saucisse. Et puis, il y en a qui ne mangent pas de porc. Et on doit louer Dieu dans le même lieu le dimanche matin. Que Dieu bénisse tous les véganes chrétiens. Qu'ils renouvellent leur force et leur intelligence. Pour qu'ils comprennent que Jésus, lui, mangeait de la viande. La gestion des conflits, la grâce, la gestion des conflits avec sagesse, reconnaître la richesse de la diversité intergénérationnelle. Jeunes et vieux se plaindront ensemble. Ah non, pardon, se réjouiront ensemble. Ça peut créer des conflits. Toute la notion aussi de cultiver un amour toujours plus profond pour la Bible. Parce que si l'église de l'Épine n'est pas fondée sur la Bible, ça devient une association. Ça devient un groupement de personnes qui n'apprennent plus à se soumettre à l'autorité de Dieu. Donc la présence de la Bible, le fondement biblique est tellement important. Et puis il y a aussi tout ce défi qu'on a vu la semaine dernière avec Jérôme. de mieux comprendre la culture dans laquelle on vit, pour comprendre quelles sont les soifs spirituelles des gens qui nous entourent, pour arrêter de les écouter pour que nous, on puisse répondre, mais les écouter pour que Dieu, au travers de nous, puisse répondre. Et ce matin, nous allons découvrir une église qui a soif de répondre à différents types de besoins, qui a soif de rayonner dans un monde enténébré. Et notre culture d'église, nous croyons que c'est un environnement qui est propice pour que des chrétiens s'engagent, pour que des chrétiens contribuent, pour que des chrétiens se sentent prêts, parce que formés, équipés, rassurés, se sentent prêts à servir et à s'impliquer. C'est à la fois un hôpital et à la fois un chandelier. L'Église, c'est une communauté de pécheurs sauvés par grâce qui forme une Église hôpital. C'est mon troisième point. On parle souvent d'être conduit par le Saint-Esprit. Et on parle de la puissance du Saint-Esprit. J'entends très peu de personnes parler de l'esprit de consolation. S'il y a consolation, c'est qu'il y a souffrance. S'il y a souffrance, c'est qu'il y a épreuve. S'il y a épreuve, c'est qu'il y a un problème, parce que je m'attends à ce que Dieu réponde à ça et il ne répond pas. Mais nous sommes le peuple qui croyons au Saint-Esprit, n'est-ce pas ? À l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? Mais l'esprit auquel tu crois et qui vit en toi, c'est un esprit de puissance, d'autorité, c'est aussi le Saint-Esprit qui opère la consolation. Jean chapitre 14, verset 16 dit ceci. « Et moi, dit Jésus, je prierai le Père. Si Jésus prie, moi je crois que ça s'accomplit, hein, d'accord ? Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point. Mais vous, chrétiens, vous, disciples de Jésus, vous le connaissez. » Parce que Dieu vous a déjà consolé de votre péché et vous a transformé. Parce qu'il demeure en vous et il sera avec vous. Une église conduite par le Saint-Esprit est une église qui s'engage dans la consolation des personnes éprouvées. Il ne faut pas avoir peur de consoler quelqu'un qui passe par l'épreuve. On se serait attendu à ce que Dieu réponde d'une manière, ce n'est pas arrivé. Le Saint-Esprit alors nous remplit de consolation pour accompagner celles et ceux qui souffrent. L'Esprit Saint est appelé consolateur. Paraclet en grec dans la Bible, et son rôle est de guider, d'enseigner et de réconforter les croyants. Le croyant ne vit pas que des victoires terrestres, sinon il n'aurait pas besoin de la foi. Si on vivait tout le temps dans la victoire, on n'aurait pas besoin de la foi. D'ailleurs, si on vivait tout le temps dans la victoire, on n'aurait pas besoin du Saint-Esprit non plus. On a besoin de cet esprit de consolation, le Saint-Esprit consolateur. Le chrétien vit aussi sa part de souffrance et d'épreuve. 1 Corinthiens chapitre 12. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voici comment nous rendons les choses concrètes en étant l'Église aujourd'hui. Il y a parfois Dieu qui répond de manière miraculeuse, et parfois Dieu reprend aussi des personnes qu'on aime. C'est le cas pour cette semaine où nous entourons de nos prières, de notre consolation, notre sœur Hélène Parisi qui a perdu son époux, Charles qui est décédé et dont l'enterrement aura lieu vendredi prochain à 14h ici même. Ce n'est pas que des paroles. Il y a à côté de vous des personnes qui pendant des mois ont prié et ont entouré Hélène et ont entouré Charles. Concrètement, pas juste « je prierai pour toi mon frère, je prierai pour toi ma sœur ». Concrètement, des hommes, des femmes ont été présents et seront encore présents. Et concrètement, nous sommes présents dans ce moment-là. Alors, est-ce qu'on est parfait dans la manière d'accompagner ? Certainement pas. Je pense qu'on a encore à avancer, progresser. Et si seulement on pouvait répondre à tous les besoins. Ah ben non, on s'appellerait Dieu en fait. Que Dieu nous aide à répondre aux besoins auxquels Dieu nous appelle. Mais ce matin, nous voulons entourer et nous voulons prier pour Hélène et sa famille. J'aimerais juste qu'on incline nos visages ensemble et qu'on puisse prier pour la famille endeuillée. Seigneur, ce matin, nous prions pour une famille que tu connais depuis toujours. Et tu connais le courage, la foi de Charles, qui est maintenant sans douleur auprès de toi. Nous prions pour cette période tellement particulière. Et nous te demandons de vivre concrètement ce texte qui nous dit que quand un membre souffre, tous les autres souffrent. On n'est pas peut-être les meilleurs amis, mais nous sommes une communauté. Ce matin, en Église, nous prions, Seigneur, que le Consolateur touche toute la famille éprouvée ce matin. Et aide-nous à être une église connue dans le monde spirituel comme dans le monde d'aujourd'hui pour être une église qui aspire à exceller dans la consolation. Aide-nous, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, de nos failles. Et d'avance, nous te prions pour ce service d'au revoir. Que la consolation soit opérée dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Parce que nous sommes une église hôpital, nous souffrons avec Hélène, les enfants. Et j'aimerais dire quelque chose, parce que parfois on pense que dans l'église, on doit être les meilleurs amis du monde. La Bible ne nous a jamais appelés à être les meilleurs amis du monde. Elle nous a appelés à être frères et sœurs dans la foi. C'est différent. C'est la famille spirituelle. Et nous prions et nous serons présents à cette cérémonie et nous sommes à votre écoute. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne savons pas tous les conflits, les problèmes, les soucis ou quoi, mais nous voulons être à l'écoute. Si nous pouvons aider, nous aiderons. C'est le cœur de l'épi. Les chrétiens sont des pécheurs sauvés par grâce qui forment une communauté hôpital, qui prend soin, qui soigne, qui forme, mais aussi une communauté chandelier. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville située sur la montagne de Strasbourg et de l'Eurométropole ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Quel passage! C'est notre passage de l'année. Ce passage enseigne que la foi chrétienne ne doit pas être cachée, mais manifestée ouvertement par des actions, afin d'être un témoignage visible du Dieu invisible. Le chrétien est animé d'un profond amour pour Dieu et pour son prochain. Profond, pas parfait, mais profond. Et cet amour le pousse à s'engager dans une mission pour faire connaître Jésus, que ce soit à l'échelle internationale, que ce soit à l'échelle locale, que ce soit à l'échelle familiale, et le tout en restant pertinent et sensible par rapport à la culture qui l'entoure. Moi, je pose une question ce matin. Est-ce que l'église de l'Épi est parfaite? Non. Est-ce que ses leaders sont parfaits dans leur direction? Non. Est-ce que les membres qui servent et participent à la communauté sont parfaits? Non. Mais laissez-moi vous dire ceci par la foi et avec toute ma foi et avec toute mon énergie. L'Épi est une église locale composé de chrétiens pécheurs sauvés par la grâce de Dieu, qui apprennent avec humilité à bâtir et à partager leur foi. Je peux entendre un amen pour toutes les gens de l'Épi qui se reconnaissent dans cette vision-là, s'il vous plaît. C'est pas fini. Ces chrétiens œuvrent ensemble, formant à la fois un hôpital spirituel où l'on trouve la guérison et la formation, et un chandelier qui illumine le monde de la lumière de Christ au travers de l'engagement dynamique de ses membres. Et c'est pourquoi nous avons les portes ouvertes ce matin de l'église de l'Épi, parce que c'est une occasion idéale pour chacune, chacun, de découvrir comment nous incarnons cette dimension hôpital et cette dimension chandelier. Et ce matin, pas moins de 28 services groupes sont présents sur tout notre site. Et dans un instant, vous pourrez les visiter librement, sans contrainte de temps. On vous a donné un petit livret et dedans, vous avez le plan de tous les services qu'il y a. Vous pourrez le consulter, vous pourrez vous rendre là où vous êtes interpellé, intéressé. Vous aurez des stands, des personnes qui vont vous présenter leur cœur, leur vision, qui vont échanger avec vous en questions-réponses. Les enfants de 6, 11 ans, si vous êtes là dans ce lieu ce matin, vous avez raison. On vous a entendu l'année dernière. Et c'est pourquoi les scouts évangéliques, avec qui nous sommes partenaires ici à l'Épi, ont organisé un grand jeu pour vous sur tout le site de l'église. Et ça démarrera à la cafétéria, au stand des scouts. Vous pourrez vous y rendre et vous allez avoir des défis à relever. Et vous allez aller de stand en stand un peu partout. Et si vous réussissez les défis, vous aurez un petit cadeau. Une agape aussi va démarrer à 11h30 et les stands fermeront à midi de manière à ce que vous puissiez vraiment prendre le temps de vous renseigner, de découvrir ce qui fait l'église de l'Épi, ce qui fait notre cœur. Tous n'ont pas pu être représentés, mais une grande majorité ce matin. Donc la célébration, elle est là aussi pour vous ce matin, parce qu'il y a vos frères et vos sœurs qui se sont préparés, parce qu'ils veulent partager avec vous leur foi hôpital. et leur foi chandelier. Je voudrais juste qu'on prie pour ce moment parce que je crois qu'il va y avoir des rendez-vous divins. Je crois en fait qu'il y a des gens aussi qui vont découvrir leur église. L'année dernière, une personne est venue me voir et me disait « Ça fait 3 ans que je viens à l'EPI. Oh, je ne savais pas que mon église faisait tout ça. » C'est le moment pour vous, frères et sœurs, qu'on prie ensemble pour découvrir l'église. Et ça va peut-être vous donner des sujets de prière, de dire « Mais Seigneur, tous ces services, je veux prier pour eux. » Parce que derrière, il y a des hommes, des femmes, des personnes qui connaissent Jésus, des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et peut-être le Saint-Esprit va témoigner à votre esprit et il y aura un appel de Dieu de dire « J'ai appelé un homme, une femme, et je me suis écrié, me voici, envoie-moi. » On va prier ensemble, et je vais vous expliquer comment on va pouvoir se dispatcher. Et à la fin de cette prière, on dira au revoir à nos internautes qui sont déjà en train de sortir de leur maison pour se rendre ici, parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un des moments les plus importants de la ville de Strasbourg. Et ils ont dit, mince, vite, je m'habille. Et en plus, il y a l'apéro, donc tout est bon. Venez, venez. Il y a encore du temps, il y a des trams, Dieu bénisse la CTS. Hein. Seigneur, merci pour cette matinée, merci pour ta parole. Ta parole qui nous a montré l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ta parole qui nous a montré que le Saint-Esprit envoie encore ses disciples dans la moisson. Et Jésus, tu nous as encouragé à prier le Père d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Que ce matin, des ouvrières et des ouvriers puissent être interpellés par le Saint-Esprit. Si c'est le timing que tu as décidé, Seigneur, pour venir se lever ensemble, être une église vivante, une église dynamique, une église hôpital, une église chandelier. Seigneur, merci de bénir tous nos frères et nos sœurs qui, semaine après semaine, te servent, semaine après semaine, prient, semaine après semaine, forment des disciples, semaine après semaine, sont à l'écoute des souffrances, semaine après semaine, relèvent des défis, font des projets pour ta gloire, pour que la lumière chasse les ténèbres, littéralement, concrètement, spirituellement, Seigneur. Je te prie que ce temps maintenant soit un temps de rendez-vous divin. Je te prie pour tous les enfants qui sont présents, que, au travers de cette porte ouverte, ils puissent continuer de se sentir aimés, parce que tu as dit, laissez venir à moi, les petits-enfants, ne les empêchez pas. Alors on veut bénir du plus jeune au plus vieux ce matin et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Au revoir à vous qui êtes en ligne ce matin. On vous bénit. Alors comme